VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Nouakchott, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Rwanda, la campagne pour un troisième mandat pour le président Paul Kagame ne fait pas l'unanimité. Les partisans du FPR au pouvoir disent déjà avoir obtenu 4 millions de signatures en faveur de cette initiative. Mais Maître Bernard Ntaganda, président du parti social Imbirakuri, est contre le projet. Ses explications au micro de notre envoyé spécial Bagassi Koura.
Le FPR essaie de faire la diversion pour tromper surtout la vigilance de l'opinion internationale. C'est une sorte de tragique comédie.
Mais quand on parle aux gens dans la rue, beaucoup semblent dire qu'il faut modifier la constitution, hein, parce qu'ils disent qu'ils aiment Kagame, qu'il a fait beaucoup de réalisations.
Ces gens-là ne sont pas libres d'esprit de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils comptent faire. Toute personne qui dit quelque chose contraire à ce que FPR pense, il est considéré comme l'ennemi du régime. Pour le moment, nous avons des grandes figures emblématiques de l'opposition qui se contrent à l'étranger. Pourquoi ? Autant de personnes qui ont quitté le pays. Pourquoi ? Parce qu'ils ont manifesté leur indépendance d'esprit.
On parle de plusieurs millions de pétitions qui sont déposées devant le Parlement.
Ces fameuses pétitions, sur le plan juridique, légal, n'ont aucun effet. C'est pour faire diversion, pour rouler l'opinion internationale dans la farine.
Maître Bernard Ntaganda, président du parti social Imbirakuri au Rwanda. Crise au Burundi, le gouvernement affirme que la contestation est terminée dans le pays et accuse les journalistes d'organiser les dernières protestations encore évidentes. Pour sa part, l'émissaire spécial de l'ONU, Saïd Djinnit, renonce à son rôle de médiateur du dialogue gouvernement-opposition. Les deux partis campent sur leur position et des dizaines de milliers de Burundais se sont réfugiés dans les pays voisins, notamment au Rwanda, pour échapper aux violences dans leur pays. Notre envoyé spécial Bagassi Koura est allé ce matin au camp de réfugiés burundais de Mahama, dans l'est du Rwanda. Son témoignage.
C'est un vaste camp qui s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares. On parle de 24 000 réfugiés, hommes, femmes et enfants, des gens qui ont tous fui le Burundi depuis fin avril, depuis ces violences qui ont fait suite à la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Les humanitaires expliquent ici que les premières vagues étaient composées surtout de femmes et d'enfants. Puis après, certainement voyant que la crise s'enlisait, les hommes et pères de famille surtout ont suivi. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème majeur dans ce camp, comme par exemple cette épidémie de choléra qui a éclaté dans un autre camp de réfugiés burundais en Tanzanie.
Les autorités burundaises et le président Pierre Nkurunziza lui-même avaient lancé un appel aux réfugiés pour leur demander de rentrer au pays. Et s'il y a des gens qui veulent rentrer, écoutez cet appel.
Non, tous ceux avec qui nous avons échangé dans ce camp, personne ne veut rentrer. Ils racontent les violences, les circonstances assez effrayantes dans lesquelles ils ont dû fuir leur pays. Et pour l'instant, personne ne veut retourner au Burundi.
Bagassi Koura au camp de réfugiés burundais de Mahama au Rwanda. Tension politique en RDC, le chef de la mission de l'ONU dans le pays, Martin Kobler, propose ses bons offices pour faciliter un dialogue national en vue d'élections apaisées. On écoute le patron de la MONUSCO.
Maintenant, les bons offices, en anglais, on dit, alors, it takes two to dance the tango, il faut deux personnes pour danser. Nous avons offert nos bons offices, mais il faut avoir le consentement des deux parties. Ça ne marche pas si on impose, on ne peut pas imposer les bons offices. Nous sommes prêts ici, nous sommes impartials, mais nous ne sommes pas neutres. Nous sommes basés sur la résolution 2211. Nous avons le principe de constitutionnalité du calendrier électoral menant jusqu'aux élections au novembre 2016. Nos bons offices, nous sommes prêts à le faire, mais il faut avoir aussi les autres. Normalement, nous allons avoir une réunion aussi, communauté internationale, avec le chef de l'État, et puis on pourra discuter ces choses.
Martin Kobler, chef de la mission de l'ONU en RDC, extrait fourni par Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Sommet de la coalition anti-Boko Haram aujourd'hui à Abuja, au Nigeria. Les chefs d'État du Nigeria, du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Bénin veulent intensifier la lutte contre les islamistes nigérians qui ont fait allégeance au groupe terroriste État islamique. Par ailleurs, les autorités nigérianes ont appréhendé 14 ressortissants étrangers britanniques, russes, ukrainiens et japonais accusés d'implication dans un commerce illégal de produits pétroliers. Le point avec Chérubin Dorsil.
Les 14 ont comparu devant la haute cour de Lagos hier mercredi. Ils auraient stocké sans autorisation quelque 4500 tonnes de produits pétroliers dans 3 navires au mois de février dernier. Ils ont clamé leur innocence et demandé par le biais de leurs avocats à être remis en liberté sous caution, ce que le juge a refusé. D'ailleurs, leurs passeports ont été confisqués en attendant la prochaine audience dans 7 jours. On a longtemps dénoncé le phénomène de la fraude dans le marché pétrolier nigérian, le pays étant obligé d'importer de l'or noir raffiné alors qu'il est le premier producteur du continent. Ces pratiques illicites coûtent à l'État nigérian la bagatelle de 6 milliards de dollars l'an. Le nouveau président Muhammadu Buhari s'est engagé à combattre la corruption, notamment dans la vente du pétrole produit au Nigeria.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise en Libye, l'ONU et les puissances mondiales exhortent les factions rivales libyennes à accepter un accord de partage du pouvoir pour mettre fin à près de 4 ans de violence dans leur pays. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Une déclaration commune publiée à l'issue d'une réunion hier à Berlin souligne qu'un règlement inclusif du conflit est la seule solution durable au problème de la Libye. Les diplomates onusiens et les représentants de divers pays ont exhorté tous les Libyens à s'atteler à lever les derniers obstacles dans la voie d'un accord. Plus de 20 délégués libyens étaient à Berlin pour des pourparlers, incluant les représentants de 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, de même que ceux de l'Union européenne, de l'Italie, de l'Espagne et des pays voisins de la Libye. L'émissaire onusien pour la Libye, Bernardino Leone, a tenté jusqu'ici sans succès d'amener les parties libyennes au consensus.
La lutte contre le groupe État islamique, le président Barack Obama a ordonné l'envoi de 450 formateurs militaires américains supplémentaires en Irak pour renforcer les troupes irakiennes se battant contre les djihadistes, ce qui portera à 3550 les effectifs des formateurs et conseillers militaires américains présents dans le pays. Le déploiement des renforts dans la province irakienne d'Anbar devrait commencer dans 6 à 8 semaines selon le Pentagone. Les États-Unis ont déjà entraîné 9 000 soldats irakiens l'année dernière et 3 000 autres sont actuellement en cours de formation. En visite aux États-Unis, la ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, a fait la promotion du prochain sommet sur le climat en décembre à Paris. Enjeu notamment le financement du Fonds vert destiné à aider les pays en développement touchés par les changements climatiques, particulièrement en Afrique. On écoute Ségolène Royal au micro de Claire Morin-Gibourg.
Ce qu'il faut, c'est permettre à l'Afrique d'accéder aux technologies du renouvelable, le solaire, l'énergie thermique des mers, l'éolien, etc., la géothermie également, parce que l'Afrique a tout pour réussir. Et donc ce transfert de technologies, c'est la clé du développement économique en Afrique.
Où en est-on du financement du Fonds vert ?
Alors le Fonds vert a ses 10 milliards de dollars aujourd'hui. Ce qui reste à faire, c'est des engagements concrets. Par exemple, les pays du G7 ont décidé qu'il y aurait une utilisation du Fonds vert prioritaire pour les énergies renouvelables en Afrique. Donc ça, c'est déjà une initiative concrète. Il y a aussi tous les problèmes de replantation forestière, les problèmes de protection de la biodiversité, qui sont absolument essentiels. Et ensuite, il y a l'autre fonds de 100 milliards d'euros d'investissement financier, d'investissement économique, qui doivent également être mis en place pour permettre le développement économique de certaines entreprises.
Êtes-vous particulièrement inquiète du sort des réfugiés climatiques ?
Oui, parce que la question des réfugiés climatiques, vous voyez, c'est quelque chose qui déstabilise la sécurité. Donc, si on arrive à fixer les populations parce qu'elles auront accès à l'eau potable, qu'elles pourront cultiver la terre, qu'elles auront accès à l'énergie solaire, que leurs enfants pourront apprendre parce qu'ils auront de l'éclairage le soir, on règle vraiment la question de la survie, même la question de la qualité de vie. Et inversement, si on ne réussit pas à limiter le réchauffement climatique, on aura des déplacements massifs de populations à l'échelle planétaire, donc menaçant la sécurité, nourrissant les intégrismes et les terrorismes de toute nature, parce que quand les populations sont rejetées vers la misère, à ce moment-là, elles deviennent le terreau de manipulateurs et d'idéologies destructrices. Donc c'est un enjeu considérable. Derrière le climat, il y a l'enjeu de la sécurité.
La ministre française de l'écologie, Ségolène Royal. Et pour terminer, football, le Parlement européen réclame aujourd'hui le départ immédiat du président de la FIFA, Sepp Blatter, qui a démissionné suite au scandale de corruption qui éclabousse l'instance suprême du football mondial, mais compte rester à son poste jusqu'à l'élection de son successeur. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.